Libre Scène, bonjour, bienvenue à tous. Sur le plateau, mais aussi dans la salle du très beau théâtre Le Trianon à Paris, dans le 18e arrondissement, au mois de janvier dernier, était présenté le spectacle intitulé « Les Justes Stories », proposé par la compagnie La Vie est Courte, que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui pour évoquer un travail original, tendance trash. Au Trianon, on voyait pêle-mêle des comédiens outrageusement déguisés en travestis, en bébés, en infirmières. On voyait des projections de diapositives en fond de scène et manipulées à vue. On voyait encore et portait ostensiblement à l'avant-scène des corps nus, et précisément nus à l'endroit du sexe. Et l'on entendait des phrases, toutes comme jetées au microphone, le tout arrosé de chansons aux accents satiriques. Bref, un spectacle aux allures impertinentes, certains diraient même un spectacle provocateur, où il n'est pas question de dire un texte mais plutôt de le gueuler, où il n'est pas question de jouer un rôle mais plutôt de s'exhiber, et ceci jusqu'à épuisement réciproque des comédiens et des spectateurs, puisque tout cela dure 3 heures. Rencontre aujourd'hui donc avec la compagnie, et on commence tout de suite en chanson.
3. Je ne te promets pas le grand soir, ni de te plaire, c'est sans espoir. En fait, je promets rien du tout, tu peux crever dans ton trou. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de se haïr comme il se doit. Cher connard, de toi à moi, tu me hais, sois bon, dis-le-moi.
Vous venez d'entendre la version opusquechelle, sait-on jamais d'où on vient, de la Philharmonie des Ardennes par Donna Anna, caisson de basse et trombone à coulisses Margaretha Dutroux, épiscopat Monseigneur Sans Capote, avec le concours bienveillant des agrégations nationales du Périgord. Cette émission vous était proposée sans éjaculation préalable par la cantine des petits-enfants du Haut-Rhin, réalisation Marcel Nouvoila, son Philippe et ta sœur, participation aux frais de la princesse. Prochain rendez-vous mardi 15h30 aux petits éveils de la nuit, dans un instant la suite de ce même instant. Excellente nuit, en compagnie de Clotilde Grimpafond les échelons.
Merci, vous êtes venus à plusieurs. Sur les 9 comédiens de la compagnie La Vie est Courte, je reçois 6 d'entre vous, Jacques Mestre, David Noir, Jean-François Rey, Stéphane Desvignes, Jean-Yves Lalleux et Olivier Bracon, qui est plasticien.
Pas mieux,
tant mieux. Mais ce n'est pas une compagnie exclusivement masculine, même si là je me sens quand même un peu seule dans ce studio, puisqu'il y a une fille, Sonia Caudin, ce qui m'amène à vous demander tout simplement les circonstances de votre rencontre et de cette aventure théâtrale qui compte déjà 2 spectacles.
Oui, et Les Puritains précédemment et Les Justes Stories. Je me lance vite pour ne pas laisser le blanc, mais c'est oui. important, mais vous pouvez couper quand vous voulez, Jean-Hugues Lalleux. Les circonstances, c'est la création de la compagnie La Vie est Courte. De la ligne. Les circonstances de la compagnie La Vie est Courte, créée par Sonia Caudin quand elle a monté Le Journal d'un Fou avec Pierre Villiers et moi-même. Rapidement, moi je me suis servi de l'outil pour proposer Les Puritains à un groupe d'amis, surtout d'amis et de comédiens notamment, dont une partie ici présente et puis que j'avais rencontré préalablement dans diverses occasions. Alors c'est des occasions extrêmement diverses dont ils vont vous parler. Ça va d'un Goldoni qu'on avait tenté de monter, du Conservatoire du 9e. Du fameux parc Astérix pourvoyeur de cachets. Voilà.
Alors, c'est le 2e spectacle que j'ai pu voir, qui s'appelait Les Justes Stories, qui fait suite à un spectacle qui s'intitule Les Puritains, où la critique avait vu dans votre travail un théâtre fièrement érigé contre l'ordre des choses, une nouvelle approche de l'art dramatique, c'est-à-dire iconoclaste, vivante et sauvage. Vous rapprochez votre travail plutôt de la scène rock. Alors, beaucoup de musique, mais aussi une présence qui est plus celle de performeur que de comédien.
Il y a une présence sonore, il y a une bande son qui nous accompagne tout le long du spectacle, qui est importante. Je ne sais pas, David.
Ah oui, plus qu'importante, c'est un vrai décor pour moi. Un vrai décor qui nous sert de support et pour les comédiens. C'est un lien de communication. D'abord dans le travail, en répétition, parce que tout ça vient quand même de quelque chose qu'on fait ensemble. Moi, j'amène des sons. Si je peux dire juste un mot là-dessus, juste sur la fabrication, je sais que c'est très court, mais j'essaie de le faire quand même.
Non, mais allez-y, prenez votre temps.
Je vais prendre mon temps.
On a encore 26 minutes.
Je vais prendre mon temps. Alors, ce que je veux dire, c'est que sur ce mode-là, comment je fonctionne, en fait, j'entends des choses, j'ai envie de voir des choses et je les transmets par ça, par des référents communs. C'est pour ça que je suis un petit peu issu de forme d'imitation, de la parodie, tout ça. Pour moi, c'est le vrai sens du théâtre, ça. C'est de ne pas être au premier degré des choses, mais C'est de l'expression d'un regard, c'est comme ça que c'est intéressant. Et la parodie, qui est souvent décriée, peut-être mal utilisée aussi, c'est l'art du comédien au fond. Pour moi, c'est l'art du comédien, parce que ça fait référence toujours à quelque chose de soi, toujours à quelque chose qu'on a vu, et on recombine. Il n'y a pas du tout de premier degré sincère dans l'art du comédien, il y a une vraie authenticité, mais de l'individu qui refait une création au travers de lui-même, avec ses propres éléments. Donc pour moi, c'est ce que j'ai perçu de la chimie du comédien, de se servir de son, de son enfance, de musique, de tout ce qui fait son univers, du rapport aux autres, il le met en commun, il le distille, il fait son truc. Moi, je fais en fait la même chose au niveau d'une conception de paysage, de mise en scène avec des comédiens, mais en fait, j'ai envie de faire la même chose. Donc c'est pour moi un travail d'alchimie de comédien. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça se passe facilement, et ça passe notamment par le biais de la musique.
C'est-à-dire voilà. Que c'est aussi plus scène rock, parce que aujourd'hui, le théâtre, il est mort. Et le rock, il est vivant aujourd'hui. Et nous, on fait du théâtre vivant. Et du théâtre vivant, on en voit très peu. On n'en voit pas. Sauf en venant voir les Justes.
Ah ben voilà, c'est de l'autopromotion.
Oui. Mm-hmm. Ça pourrait éventuellement se rapprocher aussi du cabaret. Enfin, moi, je préfère à la limite du cabaret que du théâtre, quoi. Parce que ce que véhicule le théâtre ne m'intéresse pas trop. Donc à la limite, je préfère qu'on dise qu'on fait du cabaret ou du grand guignol ou ce que vous voulez. Mais du théâtre, par rapport à ce que j'en vois, est-ce que j'en ai fait, ça m'intéresse beaucoup moins, quoi.
Olivier Bracon, vous dites que c'est un théâtre qui est à l'extrême limite du théâtre.
Oui, à l'extrême limite du théâtre, parce que le théâtre emploie dans son expression des formes qui sont très très déterminées. Et je pense que David fait un travail justement qui est entre la figuration et la plasticité. Autrement dit, entre la forme déterminée et la forme indéterminée. C'est à ce sens justement, enfin Stéphane l'exprimera en disant que c'est un théâtre rock, d'autres autrement, moi je pense que c'est ça plus précisément.
Alors,
l'extrême limite. La frontière entre la scène et le quotidien, toutes ces choses là
savoir aussi ce qu'on peut arriver à montrer sur une scène dite de théâtre. Ce qui est affligeant, c'est la manière dont on est formaté et dont on est formaté en tant qu'auteur, en tant que comédien, que spectateur. C'est-à-dire que vous avez des spectateurs de théâtre qui viennent dans les lieux qui sont nommés théâtre et qui viennent voir du théâtre. Et au bout d'un moment, effectivement, on voit, il y a 180 pièces qui se jouent chaque soir à Paris, mais comme le dit le texte de David, il y en a pour tous les goûts, même si c'est toujours le même. Donc effectivement, on voit 180 pièces de théâtre. Mais on pourrait dire que ce sont toutes la même, finalement. Et c'est ça qui est un petit peu attristant, c'est qu'il y ait aussi peu de vivacité, justement, de différence, de mouvement dans ce qui est appelé le théâtre. Donc on peut appeler ça scène rock, voilà, on fonctionne encore par référence, parce que on se dit que le rock, ça bouge un peu plus. Tout bêtement, on fait du théâtre, moi ça me dérange pas d'utiliser le mot, c'est savoir juste ce qu'on met dedans, quoi.
Le format, c'est quelque chose qui immobilise énormément. Donc à partir du moment où on fait du théâtre, est-ce qu'on a le droit à l'immobilité? Est-ce que c'est pas plutôt le contraire? Et comment est-ce qu'on l'exprime? Par quelle forme? Par quel moyen?
Alors la forme, j'ai dit, elle est très très vivante. Il y a des choses qui se retrouvent dans les deux spectacles, notamment le fait que vous lisiez le texte, hein, il n'est pas appris par cœur, vous le lisez, vous le dites au microphone.
Oui, moi c'est quelque chose alors que auquel je tiens. Après ça s'apprend tout seul, mais j'aime bien. D'abord c'est des choses pragmatiques duquel je pars, c'est-à-dire que j'ai l'expérience de ça, j'ai fait d'autres mises en scène auparavant. On va pas s'ennuyer à se dire bon bah tu sais pas encore ton texte, ça je fais ça quand je suis payé. C'est-à-dire avec des compagnies qui me demandent un rendu immédiat. Je dis bah non, tu sais pas ton texte, ça le fera jamais. Mais justement, quand on est dans une recherche comme ça, et puis avec un autre amusement, j'ai pas envie que ça vienne en premier lieu. Et puis aussi parce que en tant que, mettons ça entre guillemets, parce que j'aime pas ça, mais auteur.
Vous écrivez, les deux pièces sont également deux textes que vous, oui. David Noir, vous avez écrits.
Mais c'est dans l'efficacité des mots, souvent ce que je peux reprocher dans le travail avec les comédiens, c'est qu'ils apprennent souvent pas bien ou pas comme on l'entend, ou des choses passent à la trappe, d'une certaine façon, parce que trop vite formaté, trop vite là. Le personnage est trop vite là pour moi, souvent. Alors tant pis si on prend le risque, quelquefois, il passe par des fragilités extrêmes, peut-être des moments où. C'est aussi le risque du public. Un soir, il verra peut-être rien. Sur une quantité de X de représentations. Mais je pense qu'en fait, un vrai texte au théâtre ne s'apprend que sur la durée. Et cette durée, nous n'avons pas les moyens de la prendre en répétition. Et sans doute qu'on choisit de ne pas la prendre aussi, parce que on apprend et on répète avec le public malgré tout au final. Parce que c'est la vérité des choses. Et ça aussi, c'est un positionnement. parce que notre spectacle est tout à fait fini, comme des tas d'autres, au final. Mais c'est un positionnement qui parle aussi de ça. Tous ces spectacles qu'on prétend nous amener, qui ont été très répétés, très professionnels, très ceci, très cela, ça change rien du tout, d'ailleurs, qu'ils aient été répétés les trois quarts du temps. Ils pourraient le faire beaucoup plus vite, exactement à notre façon, pour, vu le résultat qu'ils obtiennent. Et ils veulent nous faire croire qu'ils nous obtiennent... Ils nous donnent un produit fini, c'est fait. Le spectateur est dupe de ça et doit être content. Mais c'est pas vrai, ça n'est pas fini. Et le spectateur a tort de vouloir avoir quelque chose de fini. Sans ça, il faut acheter ses pâtes au Monoprix. On lui fait croire là aussi qu'elles sont finies. Qu'elles... On veut toujours faire croire qu'on peut échapper à la mort. Oui. C'est ça, perpétuellement. Alors, je ne suis pas un grand philosophe tout, là-dessus, tout, mais tout. Moi, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire dans mes spectacles, vous allez échapper à la mort. Et moi aussi, je n'aime pas me divertir avec cette idée-là, parce qu'elle est vraiment à double tranchant. Elle fait... On nous l'a déjà fait ce coup-là quand on était petit, quoi. Donc c'est fini maintenant.
Tout ce qui est déterminé rassure énormément, en fait. Et ouais. On n'aime pas la forme instable d'une façon générale dans nos sociétés parce qu'elle ne rassure pas. Voilà. Donc c'est un enjeu, je pense, même, j'ai envie de dire, presque politique, quoi. Voilà.
Alors un spectacle tout sauf rassurant. On va écouter peut-être un extrait dit par Jacques Metz pour avoir un petit peu une idée de... La propos, des propos, de la teneur un peu des textes que vous écrivez, David Noir.
L'emploi du coton-tige m'a été déconseillé par une amie. Elle prétendait que cela occasionne plus de mal que de bien. Moi, je n'en étais pas sûr. Mais regardons sur cette simulation comment le cérumen, activement poussé par le petit bâton, peut finir par constituer un véritable bouchon hermétique au fil des séances quotidiennes. Alors, tant pis pour la chatouille voluptueuse, je jette le petit bâton et renonce à me laver les oreilles. En écoutant les justes, je me débouche les oreilles, sans aucun risque d'agression pour mon tympan. Tout passe par voie psychique directement au cerveau et dans les veines. J'y suis bien arrivé alors. Alors pourquoi pas vous? Oui, vous aussi écoutez jusqu'au bout les justes et vous n'entendrez que mieux en sortant.
Les justes stories sont un produit de La Vie est courte et du laboratoire noir. Les justes stories ne sont pas testées sur les animaux. Ne pas poursuivre le traitement sans avis médical.
Alors ça, c'était un extrait que vous intitulez « Les cotons-tiges » qui fait partie du spectacle Juste Souris. J'ai envie de vous demander un petit peu de quoi s'agit-il en fait comme histoire. On peut retrouver dans Les Puritains et dans Les Juste Souris une sorte de lutte. On sent que vous êtes contestataire, vous êtes plutôt contre que pour. Et contre, en l'occurrence, les pouvoirs. Alors c'était d'abord le pouvoir peut-être paternel dans Les Puritains, l'oppression... de la loi, et puis là dans Juste Story, c'est le pouvoir des médias, mais alors en
oui,
multiples mouvements.
C'est la même chose en fait. C'est le pouvoir qui me dérange le plus, enfin c'est vous qui le synthétisez comme ça, hein. Je sais pas si je dirais ça moi, mais pour y répondre.
Qu'est-ce que vous diriez, David?
Non, ça me dérange pas de dire le pouvoir. Moi ce qui me plaît, c'est ce mot contre, parce qu'il y a beaucoup de pour derrière, mais qui sont d'un autre côté, mais bon, ça serait trop long. Mais le contre là, non, le pouvoir, c'est le pouvoir qu'on donne. Donc en fait, c'est pas le pouvoir que les gens ont, à la limite, ils le méritent, puis ça les regarde. C'est pas ça. C'est le pouvoir qu'on donne. Le public, les médias, les gens eux-mêmes, c'est ça qui est insupportable. C'est ça qui fait l'engrenage de cette hiérarchie abominable. Moi, ce qui me dégoûte, c'est de voir alors c'est pas embêtant, on va y aller, mais la mairesse d'Avignon qui reçoit Jacques Chirac et qui a ce petit côté dans le regard qui serre des mains et puis elle livre. Ah, pardon, ça suffit maintenant. Il y a un côté ça suffit maintenant. Qui est une espèce de, comme ça, d'éducation.
Et vous êtes contre le système, en fait, contre un certain système établi, plus que le pouvoir.
Oui, tout à fait. Mais c'est même pas qu'il soit établi. C'est qu'il faut voir à quel point il est pervers. À quel point on est en train d'appliquer toujours cette histoire-là de favoriser le bourreau, chez soi comme chez les autres. Et ça, c'est le théâtre. Et moi, ça me fait jubiler quand je vois des scènes comme ça à la télévision, quoi. Parce que c'est ça, tout le théâtre. C'est d'apprendre à faire ça. C'est d'apprendre à le reconnaître, à le voir, à l'analyser et à le restituer, à le faire ressentir. C'est pas penser ce qu'on dit, dire pas forcément toujours ce qu'on pense, et surtout faire sentir comme ça, après, l'air de rien, faire passer les choses l'air de rien.
Mais alors, à Avignon, vous y allez quand même. Vous vous êtes présenté à, alors cet été de camp à camp, au mois de juillet évidemment.
Oui, forcément, pendant Jean-François. Le festival, parce qu'on a beaucoup hésité à y aller au mois de juin.
Il faut préciser qu'au-delà de... Enfin, dans les textes que vous prononcez, puis vous avez une relation un petit peu conflictuelle avec les théâtres. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler longuement, mais vous étiez programmé donc à l'espace Pierre Cardin. Et puis, le spectacle a été annulé après quelques représentations. Et là, je sais que vous avez beaucoup réfléchi à savoir si c'était important, opportun pour vous d'aller justement au Festival d'Avignon, dans le off, que vous critiquez par ailleurs.
Alors, vous disiez qu'on était contre, contestataire.
Et là, c'est-à-dire que le comédien, moi je suis comédien, donc c'est un engagement. Je m'engage à lire le texte qu'a écrit David. C'est un texte, c'est une parole que j'ai envie de dire, que j'ai envie qu'on entende. Là, on a entendu le texte que je viens de dire. Hein. On nous débite à la télévision des images, on nous débite des choses qu'on n'écoute plus, qu'on n'entend plus, on subit. Voilà, donc c'est un engagement. Et à chaque fois qu'on a joué les puritains, à chaque fois, des personnes se sont engagées avec nous, à nos côtés. On l'a joué les puritains d'abord chez Stanislas Nordet, ensuite
au TGP,
voilà. Ensuite, nous avons fait le La Voix Moderne Parisien. On a fait Cergy aussi chez Joël Dragutin. Ces personnes se sont engagées plus ou moins, de façon plus ou moins importante. Hein. Et après, le La Voix Moderne Parisien, dans le 18e. Et ensuite, nous avions rencontré quelqu'un qui voulait s'engager et qui s'est engagé, Nicolas Augereau, qui travaillait chez Pierre Cardin comme attaché de presse, qui nous a donné l'opportunité, puisque Pierre Cardin ouvrait une nouvelle salle, de prendre cette salle, de prendre cet auditoire quoi,
qui se crée.
Et donc, ce que nous avons fait, David, dans l'urgence, a écrit les Justes Stories. Voilà. Et donc...
Pierre Cardin a mis fin à l'aventure, disant que c'est plutôt lui qui a été contre. Parce qu'il y a un discours qui est très intéressant. Et effectivement, quand on est contestataire, on est toujours contre, certes. Mais il y a des gens qu'on rallie autour de soi, qui sont pour quelque chose. Alors quand on est contre, on est peut-être aussi pour une autre vision, tout simplement. Parce que si on est d'accord avec la société dans laquelle on vit, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de pièces de théâtre. Il n'y a plus besoin de musique, il n'y a plus besoin de rien du tout, il n'y a plus besoin qu'un peu plus de publicité et moins d'émissions de radio sur lesquelles il n'y a pas de publicité, d'ailleurs, ce que je réprouve personnellement.
Donc
je vais en faire un petit peu moi-même, donc de la publicité.
C'est bon, je crois que là vous êtes venu en nombre. Si les gens ne retiennent pas cette histoire-là, c'est vraiment qu'ils n'auraient pas mis l'écran moyen.
Enfin, donc peut-être répondre à la question.
Stéphane d'Avignon.
Répondre à la question quand même d'Avignon, oui.
Ça se passera où d'ailleurs ? Dans quelle ville ?
On y va, mais je veux dire, on déteste le principe de ce festival. Enfin, c'est l'arnaque totale. Mais on y va parce qu'on nous a invités.
Alors l'arnaque, il faut peut-être préciser ce que vous trouvez à... l'arnaque. L'arnaque, c'est qu'on doit payer cher un théâtre.
Oui. Que les caves à Avignon, si vous avez une cave, chers amis auditeurs, eh bien c'est le moment de la louer très cher.
Ils le savent déjà, je crois.
Ils le savent déjà, oui, non, mais pour les deux ou trois qui ne seraient pas au courant, votre cave vaut de l'or. Donc,
non, mais c'est la grande fête du théâtre à prix d'or pour les compagnies. C'est toujours la même histoire. Je veux dire, c'est qui fait le théâtre ici, dans ce pays. À la fin, je veux dire, c'est pas la Vaudan, c'est pas l'Odéon, c'est pas 3-4 Gugus qui ont des grandes maisons avec la clé. Je veux dire, c'est les compagnies. Alors même si pour moi, les compagnies font aussi de la merde des trois quarts du temps, c'est pas le sujet. C'est simplement que c'est nous qui le faisons et c'est nous qui racontons sur tous les plans. Donc ça suffit au bout d'un moment. Et là-dedans, on est protégé nulle part. Je veux dire, on se fait pincer pour poser trois affiches, il n'y a pas d'emplacement pour nous. Et il faut arrêter de s'enorgueillir d'une culture qu'on ne protège pas, qui n'est pas vivante les trois quarts du temps, et qui est faite par les tâcherons de... je veux dire, on est les tâcherons de l'invention, quoi. Mais c'est nous qui le faisons néanmoins.
Oui.
Donc tout ça pour dire quand même que nous serons à Avignon.
le lieu, on le précise maintenant.
Ah
et
oui,
puis...
c'est important parce que...
Ça s'appelle le Pulsion Théâtre.
Oui, vas-y, balance la totale.
Donc nous lançons à cet effet une souscription en 2002.
Ça c'est le petit texte, vous lisez donc le petit texte. Hein,
donc un petit texte.
On vous écoute, on continue dans l'autopromotion.
Chers amis auditeurs, vous allez tous recevoir dans votre boîte à lettres prochainement, donc une petite souscription intitulée « Dénaturons ensemble le Festival d'Avignon ». Les puritains sollicitent votre soutien pour nourrir de leur présence cette chaleureuse et désintéressée grande fête du théâtre. Grâce à la très rare proposition de Maria Duszewski, ça c'est vrai, directrice du Pulsion Théâtre, de nous ouvrir son lieu sans location ni minimum garantie, nous sommes invités à venir déverser notre bile et notre sang au sein des remparts de la cité papale via notre nouvelle création, Les Justes Stories version .3. Voilà. Malgré la générosité de l'offre, nous ne sommes pas en mesure de financer seuls une telle aventure. Nous comptons sur vous pour permettre à notre travail de continuer à être vu et entendu et devenir ainsi la première compagnie entièrement subventionnée par son public. Aussi, n'attendez plus, agissez dès maintenant. Merci d'avance donc d'envoyer vos dons nombreux à La Vie est courte, 34 rue des Orteaux, Paris 20e.
Alors il faudrait dire aux auditeurs un petit peu de quoi ça parle, vos spectacles. Continuez à dire. Alors là, on a... De quoi ça parle et comment ça en parle ? Ça en parle, on l'a vu, de manière très, très vivante. Il y a un élément sur lequel... fondamental sur lequel je crois il faut qu'on s'arrête, c'est la présence du nu.
Oui.
Et peut-être dire que vous cherchez plus à...
Enfin, on assume le nu. Quelque chose d'inoffensif et qui fait beaucoup de bien.
Alors ça, c'est Olivier Vracon qui s'exprime, le nu, mais qui parce que dans tout ce que vous faites, vous montrez, les images sont fortes, comme si ça aidait à ce qu'on entende mieux le texte. Et alors la nudité, j'aimerais vraiment savoir, parce qu'elle est dite dans les mots, oui. vous parlez de corps, alors dans des termes simples, physiques, de chiasse, de merde, beaucoup, c'est très caca quand même. Et le nu est également très très présent. Alors moi j'aimerais savoir un petit peu pourquoi.
Pourquoi? Parce qu'il est présent dans notre vie. Vous vous levez comment vous le matin? C'est comme ça qu'il est.
En pyjama.
Non. Mais vous m'avez pas dit ça.
Sous le pyjama.
Non. C'est essentiel. C'est on part de ça. Enfin, je sais pas. Vous posez une question innocente parce que. Le nu, notre corps, nos désirs, se toucher, toucher l'autre, enfin, ça prend une place tellement importante. Et c'est surtout, bon, je vais pas pouvoir dire ça en 5 minutes, quoi, et j'ai pas envie de le faire
en
5 minutes.
Neuf.
Mais on doit chanter, non? Et, bon, je sais pas, c'est un peu piège de dire ça en 9 minutes. Simplement, c'est essentiel. Et pour moi, ce que je peux dire, c'est qu'on ne le voit pas, ou on le voit de façon esthétisée, qui est aussi une excuse. Et vous dites, on le dit dans les mots, et on le voit. Oui, pour moi, c'est très important d'échapper. C'est aussi un discours de refuser de faire de l'érotisme baba, c'est-à-dire de la suggestion qui ferait plaisir à la SACD ou je ne sais pas qui, à Louise d'Outreligne, d'écrire des jolies choses comme ça. Moi, ça m'emmerde royalement. J'aime la chair qui ressemble à la chair. Je ne crois pas que ce soit plus fin de suggérer que de montrer. Et je suis défenseur de ça. Et je pense même que c'est essentiel et que c'est fallacieux et que c'est une forme de censure tout à fait indirecte qui passe par des velléités culturelles, de bon goût, d'oratoire, etc. Enfin, il faudrait en parler pendant des heures. À quel point c'est pervers? Je veux dire, moi je pense réellement à George Orwell, là où on en est aujourd'hui, même si ça fait rigoler tout le monde. Évidemment, alors il n'est pas watching you aussi simplicitement qu'on veut le voir, mais c'est absolument partout et c'est une pourriture infernale. Mais si les gens ne s'aperçoivent pas de ça, et que c'est à commencer dans leur conscience, dans leur désir, dans les choix qu'ils vont faire de refoulement, dans les choix qu'ils vont faire de faire du théâtre même ou de ne pas en faire, parce que c'est quand même une parole vivante accessible à tout le monde, d'aller sur un plateau plutôt que de constamment à aller brasser du fric ou se donner bonne conscience en refoulant des tas de choses. Il y a des tas de choses à dire. Bon, voilà.
Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une critique, en tout cas, de différentes représentations qui sont données soit du corps, soit du pouvoir, soit des relations filiales, soit même du spectacle. Et c'est dans ce sens que jouent en partie les satires que vous faites des chansons assez connues. On peut peut-être écouter une autre version, peut-être celle que vous aviez préparée. Je vais vous laisser.
C'est la version originale, hein, je tiens à le préciser. C'est l'autre qui est une parodie.
Voilà, alors David Noir et ses acolytes rejoignent les micros qui sont debout.
Là, hein, dites-le, parce que notre musicien n'est pas là.
Celle, c'est en analyse que je parle d'elle. Quand je sodomise, je ne vois plus qu'elle. Comme un curieux objet des mois de sa rondelle, je vois sortir la matière universelle. J'ai posé mon pied sur sa fragile membrane. Forcer la jupe, le pantalon ou la soutane, ciel. Et celui qui ne sait juter que la poussière, celui-là ne mérite pas que le derrière. Ô Lucifer, attention encore une fois, il me reste à passer presque mon avant-bras. La 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 la.
Celle, déjà tout enfant, je jouais avec elle. Sous mes doigts collants, je l'ai trouvée belle. Quand un jour mes géniteurs me montrent du doigt, alors perdu, honte, je ne comprends pas. Je me nourris depuis de débats consensuels, pour enfin chier comme parle la bouche officielle. Belle, et si un jour l'amour tombe dans mon escarcelle, je lui demanderai s'il est bien fait de sel qui tapisse le fondement de nos embarras, la fleur qui pousse sur les rives du fleuve caca.
La 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 la. Sel, enfants d'émigrés, je les aimais tels
que vous les trouvez quand dans vos écuelles, flottant au gré des eaux, vous les envoyez. Elles croisent mes propres productions sous vos pieds. Nos différences se voient moins au cabinet. Seul un accent parfois vous dit « château coupé ». Ouais, mais si la merde des autres mondes vous effraie, mélangez à la vôtre, regardez-y de près. Toi qui chiferme, lèche-moi encore une fois, tu goûteras les épices de mon pays là-bas. Il est pourtant des langues qui ne lèchent pas, organes qu'on dit aussi inerte que le bois. Crois que même si j'ouvre grand ma gueule encore une fois, c'est pourtant bien mon cul qui parle par ma voix. Je n'ai le courage que des mots et pas de bras, mais sans ma pensée profonde, car elle vient de là.
Extrait, donc, Jean-François Rey, David Noir, Jean-Hugues Laleud, une parodie là, de Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est pourtant des langues qui ne lèchent pas.
Je ne sais pas, Jean-Hugues, qu'est-ce que vous comprenez?
Les langues de bois, non?
Oui, peut-être. Ouais. Je ne sais pas. Oui, il y a des langues plus raides que d'autres, c'est ambigu tout ça. Les langues molles, les langues plus raides.
Comment vous pourriez présenter justement le spectacle Les Puritains? Comment vous l'avez construit?
Les Puritains,
comment
ou vous... Les Justories?
Les Justories, pardon, non. Excusez-moi.
Comment je l'ai construit? Comme d'abord à la suite des Puritains, donc dans une volonté de système, pas de systématisme mais de système, c'est-à-dire que je veux à nouveau ces diapos assez crus avec des textes dessus qui font jeu de mots, qui sont un écho.
Voilà, c'est ça, oui, sur scène il y a des diapositives.
Voilà, je veux le texte en main. Et autant les Puritains parlaient de l'enfance profondément, autant ça parle de l'adolescence, d'une adolescence absolument nécessaire à écouter, comment ça s'écrit et comment ça se construit. Ben, moi j'écris tout le temps, je note, je pense. Il y a des choses que j'ai envie de faire en tant que comédien, dans lesquelles j'imagine mes amis aussi. J'ai le désir, c'est des affaires de désir. Et puis après, ça se monte, ça se colle, on se réunit, on boit un coup, on l'essaye, on le fait. Moi ça me renvoie des choses, j'y réfléchis et on se renvoie la balle comme ça. Et voilà comment ça se monte autour d'une nécessité, pour moi, d'un désir, comme vous parlez de danse off tout à l'heure, à mon avis, comment on fait de la danse, je ne sais pas. Moi, c'est ma façon de danser, de chanter. Pour moi, c'est, comme disait Jean-Hugues, du cabaret, du music-hall, dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire, pour moi, l'essence d'un théâtre vivant, quoi.
D'abord, je voulais parler aussi de Philippe Savoir, qui est déjà là, et de Jérôme Coulon, qui lui est pianiste, et
Miguel-Ange Sarmiento.
Et Miguel-Ange Sarmiento.
Et Sonia Codan, qu'on a vu tout à l'heure.
Et avec, on est sans arrêt en création hein, pendant le spectacle. Et moi, il m'arrive de travailler avec Jérôme Coulon et de lui dire j'aurais envie de telle et telle musique ce soir, est-ce que c'est possible? Et on le travaille comme ça en 2 minutes avant la présentation, et on le fait en direct. Donc, on parle de spectacle vivant, vraiment, ça l'est complètement.
C'est même interactif, pour employer un terme à la mode. C'est-à-dire qu'on peut vraiment jouer avec le public, vraiment, vraiment, vraiment. Un peu comme Jean Lefèvre, qui est notre grand maître à tous.
Ouais.
Mais
Lefèvre d'Arcier. C'est pas lui?
Ah, pardon. Je ne connais pas ce petit nom. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un rapport le plus vivant possible avec la salle, qui d'ailleurs est vivante. Hein. Elle s'en va, elle monte sur scène.
Oui, parce que les comédiens parfois aussi viennent nous taquiner, en quelque sorte. Dans la salle.
Dans ce monde de brutes, il est toujours très agréable d'avoir une jolie fille, comme je joue dans ce spectacle, la charmante panthère habillée.
Charmant.
Qui arrive.
Ça fait plus travesti que fille, quand même.
Ah bon?
Oui, je trouve.
Moi, je trouve qu'il est bien féminisé.
Un grand garçon habillé en panthère.
Il fait très, très directrice de casting, je suis pas d'accord avec vous. Très directrice de chaîne.
Donc, si on intervient dans la salle, c'est pour être tendre.
Oui.
C'est surtout la
oui, parce que c'est pour être en général avec ceux qui restent ou pour aider gentiment ceux qui partent à ne pas se tromper de sortie.
Et c'est important le lieu de continuer à rester dans un théâtre plutôt qu'aller ailleurs, justement, pourquoi pas être au cabaret.
Ce qui est important, c'est le rapport avec la personne qui investit ce lieu. S'il comprend quelque chose à ce qu'on fait, s'il nous invite, s'il ne comprend pas, c'est important d'y aller aussi, mais de le baiser après, quoi, si on peut. Ce qui s'est passé avec Cardin, et tant mieux, c'est de sa faute, il n'a qu'à pas être si con.
Moi, je ne veux pas baiser Cardin. Hein.
Non, moi, c'est important que ce texte-là se dise dans un théâtre. Pour moi, c'est important.
Eh bien, ce sera le dernier mot. Libre Scène, c'est fini. Retrouvez toutes les informations sur le site de l'émission via franceculture.com. Libre Scène, Alexandre Dang à la prise de son, Daniel Finot, Dominique Compétissa ou de la Vigne. Il est à présent 17h, l'heure de retrouver Jean-Philippe Renaud.
Merci.
Au revoir.
On vous embrasse.
Merci.